12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux premiers films qui nous entraînent tous les deux dans les aventures de deux jeunes adultes qui se cherchent et cherchent leur place. L'un sur le terrain sportif du tir de vitesse, c'est l'esprit coubertin de Jérémy Saint et ça sent bien les JO. L'autre sur le terrain du désir et du BDSM, c'est La vie selon Anne de Johanna Arnaud.
Bonjour Charlotte Garçon.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma pour débattre avec nous ce midi de ces deux films. Nous accueillons également Thierry Chaise. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première. Soyez tous les deux, tous et toutes les bienvenus dans la Midi de Culture.
Et on commence avec le film L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à zéro médaille d'or.
Marie Aude, la superintendante du groupe France.
Vous connaissez Paul le shérif ?
On vient, on gagne, on s'en va.
Et vous êtes donc l'adjointe du shérif?
Bah non, je suis sa coach.
On vient, on gagne, on s'en va. Voilà la devise de Paul, champion du monde de tir de vitesse, psychorigide et immature à souhait, gendarme dans la vie et qui entend bien remporter l'or au JO depuis 8 ans. On vient, on gagne, on s'en va, loin donc de l'esprit coubertin où l'important c'est de participer et qui dénote plutôt d'un esprit de loser selon sa coach. Mais évidemment, rien ne va être aussi simple entouré de sportifs français, plus intéressés par la performance sexuelle que par la performance sur le terrain, obligé de partager sa chambre avec un nageur du Vanuatu, aliéné par sa coach, comment Paul va-t-il faire face et sauver l'honneur de la France? Eh bien, pour son premier long métrage, Jérémy Saint, co-réalisateur, je le précise, de la série Parlement, livre un anti-film de sport, mais aussi une comédie anti-beauf, une fable, dit-il. Qu'en avez-vous pensé, Thierry Chaise?
J'ai des réserves, je me suis plutôt régalé et je trouve que ce genre de film fait du bien dans le paysage d'une comédie française qu'on dit souvent un peu corsetée, toujours embarquée dans les mêmes sujets ou les mêmes manières de rire, et qui est symbolique d'un mouvement entamé avec des gens comme Élie Minoblet. Artus a sa manière avec le film qui cartonne sur cette manière de...
Un petit truc en plus.
Voilà, de vouloir rire du monde du handicap avec eux et de pas chercher, après une vanne surtout, à être très gentillé. Il se passe quelque chose. Là, ce qui se passe avec ce réalisateur qui en effet... vient de la série Parlement et c'est vraiment un...
Comme Émilie Noblet,
comme
Émilie Noblet,
comme Xavier Lacaille, qui est un acteur qu'on voit de plus en plus et qui était dans le film d'Émilie Noblet. Il y a une manière de s'emparer des sujets en étant légèrement décalé. Là, on parle de sport. Le sport au cinéma, à part la boxe, est souvent très compliqué parce que j'ai l'impression que c'est fait par des gens qui n'aiment pas ça ou ne savent pas le filmer. Le foot, par exemple, c'est absolument impossible. Là, on parle de quelqu'un qui a travaillé comme technicien à Canal, dont le père était journaliste sportif et donc qui connaît parfaitement son sujet. Et une fois qu'il connaît son sujet, il peut se permettre de le décaler. De le décaler comment ? Par l'absurde. Et en passant par des références qui font assez défaut au cinéma, à la comédie française, qui est la comédie qui cartonnait il y a 15 ou 20 ans, façon Ricky Bobby, roi du circuit, façon les rois du patin, ces Américains de la bande de Judd Apatow qui s'emparaient du sport pour faire des choses extrêmement burlesques. Et burlesques à fond, sans chercher à faire chercher un quatrième ou cinquième degré. Ce que fait là Jérémy Saint, c'est ça, avec en plus une volonté qui est là plutôt de la comédie française, quelque chose de sociétal, d'expliquer que on veut la France qui gagne, en effet, elle est assez peu inclusive en fait, et l'importance de participer, c'est assez faux. Et donc ce mélange-là est parfois compliqué, surtout si on y rajoute un récit initiatique avec le personnage donc de principal, ce champion de tir puceau, incapable d'exprimer le moindre sentiment, concentré sur son but et que tout évidemment va venir perturber. Mais même si tout n'est pas réussi, je trouve assez en ballon ce que je vois à l'écran et je me dis, ah, c'est chouette d'avoir des comédies.
On va revenir justement sur vos réserves, Thierry. D'abord, la parole à vous, Charlotte Garçon. Est-ce que, quand même, vous avez été plutôt réjoui par cette proposition de comédie qui sort un petit peu, qui n'est pas partie d'une nouvelle génération de comédies, mais qui sort un petit peu des comédies auxquelles on nous avait habitués, soit très sociales, soit beauf. J'ose le mot.
Alors, voilà. Sur le papier, j'avais tout pour aimer ce film, puisqu'il s'inscrit effectivement contre le chauvinisme. C'est une bonne idée de choisir, évidemment, c'est opportuniste aussi par rapport à la sortie et aux Jeux Olympiques, mais ça permettait de s'inscrire contre le chauvinisme, contre l'arrogance qu'on connaît française, contre le virilisme français aussi. Et puis, quand même, de combiner effectivement à l'américaine une initiation sexuelle et amoureuse avec un corps burlesque. Alors là, moi, je signe complètement pour ce programme, sauf que je vois le programme dans le film, mais je ne vois pas de bonnes idées de mise en scène qui en découleraient. Et du coup, je ris pas, ce qui est quand même bon aussi.
Vous n'avez pas ri une seule fois, Charlotte.
Non seulement
pas sourire, Charlotte.
Pas sourire. Non, mais c'est pas une histoire seulement d'efficacité comique, puisque, par exemple, je vous donne un exemple, une scène où le héros ça pourrait être vraiment un film américain, les influences sont fortes. Il se promène dans le couloir, l'espèce de couloir des différentes chambres qui pourrait être...
Dans le village olympique.
Du village olympique, jadis le dortoir, mais désormais un couloir plutôt de grand hôtel. Et il entend de droite et de gauche des gémissements de plaisir, comme quelqu'un qui tournerait un bouton d'une radio et puis voilà, de chambre en chambre. Et ça se termine par l'alarme incendie qui le douche en fait. Ça devrait être drôle, ça. Je veux dire, c'est une idée de mise en scène, d'une certaine façon. Quelqu'un qui avance dans un couloir, qui tend l'oreille, une porte, il y a des gémissements de plaisir, une autre, et lui est tout seul au milieu, esselé, puceau. Et en fait, le film, pour moi, n'est qu'une série de scénettes plus ou moins d'idées, mais qui ne sont jamais actualisées par quelque chose de l'ordre, alors j'oserais dire, de l'émotion. Ça n'arrive jamais. Parce que, bien sûr que le rire doit nous toucher physiquement. Alors, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je n'étais pas du tout touchée par cette histoire. Parce que, a priori, apprendre à perdre, ça me va très bien.
Oui, c'est complètement ça, la morale du film.
Oui, et apprendre à perdre à un fils de gendarme. Là encore, c'est pas le programme que je... Mais un film n'est pas fait que de ses intentions. Et je me suis dit que peut-être, le problème, c'est qu'il n'avait pas poussé le burlesque, cette idée du burlesque, jusqu'à l'idiotie. Et quand vous dites que ça nous change des comédies françaises actuelles, je ne sais pas, parce que quelqu'un comme Quentin Dupieux, qui fait beaucoup de films, qui a lui tout seul et un peu tout un pan de la comédie française, puisqu'il est très prolifique, eh bien lui, il va jusqu'à l'idiotie, il va jusqu'à rendre des objets, exploser le personnage et prendre une mouche géante ou un pneu. Et quand ce n'est pas un objet ou un animal, c'est un homme, c'est un humain. Mais finalement, il va très très loin dans l'atteinte du corps. Et là, moi, j'ai eu l'impression que tout était en surface, que tout glissait sur ce corps.
Il y a deux choses que vous dites, Charlotte. Il y a aussi, il y a du point de vue déjà de la réalisation, de la mise en scène. Ça manque d'idées, ça reste lisse. Et du point de vue même du propos, ça manque de radicalité. Est-ce que c'est là aussi où vous avez des réserves, Thierry Chaise?
Alors, j'en ai. J'avais pas cité Quentin Dupieux parce que pour moi il est très à part et que ça fait partie des gens qui ont, c'est des publicitaires, c'est-à-dire un concept, un film, mais ça va pas beaucoup plus loin et donc c'est pour d'autres problèmes. Je suis d'accord sur l'idée de la mise en scène. Moi j'ai l'impression que la comédie que j'ai vue est plus une comédie de personnages et de situations avec le risque, et ça arrive parfois, de faire enfilade de sketch, ça peut le faire, mais il y a quand même, je trouve, une efficacité là-dedans, dans cette écriture-là.
Avez ri, par exemple.
Moi, j'ai beaucoup ri, mais j'ai regretté qu'on n'aille pas au bout de l'idiotie. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on sent quand même, dans cette volonté de faire plein de films en un, que on veut nous émouvoir, faut quand même aussi qu'il y ait de l'émotion. Et là, moi, j'ai été gêné parce qu'elle ne vient pas naturellement, alors que les gestes de comédie, pour moi, sont beaucoup plus évidents, y compris donc parce que dans le film est scandé par des extraits de deux journalistes qui sont le duo comique Dava, qui un peu commentent les
journalistes de BFM qui commentent la nullité des sportifs.
C'est-à-dire que chaque jour, on attend une médaille, et en fait, chaque jour, cette médaille, évidemment, n'arrivera pas jusqu'au point où le seul qui va pouvoir l'avoir, c'est sans doute ce gars-là. Et je trouve que dans les bandeaux déroulants qui passent, il y a une vanne par phrase qui est
hilarante,
incroyablement écrite. Donc, moi, j'ai véritablement aimé ça, et c'est pour ça que En effet, il y a peut-être moins d'idées de mise en scène, mais il y a des idées de... Mais pourquoi ne pas être allé au bout de ça, de cette dinguerie-là? C'est ça qui me gêne.
Eh ben, est-ce que ce serait pas un parti pris aussi du réalisateur, c'est-à-dire de jouer plutôt sur la subtilité ou la nuance, de pas vouloir faire ni un film sportif, ni un film social? On peut aussi voir un coming of age avec quand même Paul, qui est ce héros introverti, puceau, mais qui va quand même avoir une relation sexuelle, qui va s'émanciper de sa coach Sonia, interprétée par Emmanuel Berko. Est-ce qu'on peut pas le voir justement comme un antifilm de tout et se dire qu'il a fait ce parti pris de l'inachèvement?
Alors moi, je verrais plutôt un panachage, puisqu'il y a tout de même toute une ambition politique. Ce colocataire du Vanuatu, qui, entre parenthèses, est montré évidemment, et je trouve ça quand même douteux, mais bon, après tout, allons-y dans le politiquement incorrect, comme enchaînant les performances sexuelles, etc. Et dont il va, lui, ce jeune puceau, dont il va se rapprocher, et pour finalement être sensible à sa cause. Kanak. En réalité, tout ça, ce sont là encore des bourgeons, c'est-à-dire des hypothèses, des programmes qui sont posés et il embrasse trop, évidemment, puisque c'est très important l'organisation des Jeux. Si on attaque les Jeux Olympiques, on attaque bien sûr tout un système gouvernemental, ministériel. Il y a une ministre dans
interprétée par Aurore Attica.
Il y a cette ambition de satire politique. On ne peut pas juste dire bah, il veut faire quelque chose qui n'est pas forcément que comique. Non, il veut aussi faire une très acide, très forte satire politique. Et pour moi, là, il rate. Et est-ce qu'il ne rate pas parce qu'il ne montre rien de Paris, par exemple? Son ambition pourrait passer par une mise en scène de la désorganisation parisienne. Et là, on voit bien que non, il n'a pas les moyens.
Peut-être des vrais moyens économiques. Hein,
oui,
d'ailleurs, non, il a décidé vraiment de nous enfermer dans le village olympique, qui ressemble d'ailleurs plus à un bésodrome qu'à un lieu de repos et d'entraînement. Et il dit d'ailleurs lui-même, Jérémy Saint, dans le dossier de presse, il dit « Je voulais faire un film de crèche. Je voulais filmer comme si c'était à la crèche en train de jouer entre eux avec leurs 48 capotes offertes par la délégation française. » De ce point de vue-là, c'est assez réussi, c'est assez puéril.
Oui, mais ça part d'une réalité, puisque c'est des questionnements. Là, on en était à discuter de comment seront les lits et en effet la distribution des capotes. En fait, moi, j'aime bien tout ça, alors que tout est recréé, parce qu'en effet, il n'y a pas de moyens et que bien évidemment, tout ce qui est JO n'a pas participé, n'a pas aidé. La Fédération française de tir, quand il y a eu le scénario, évidemment, c'est d'un seul coup déporté en disant on veut pas toucher à ça. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose. On voit les anneaux olympiques, c'est pas exactement les vrais, c'est pas les vraies couleurs. Il y a un truc d'enfant, je trouve, là-dedans. Et il y a en effet quelque chose de politique, mais il vient de la série Parlement. Donc moi, je trouve que c'est exactement ça. Mais moi, je le répète, vraiment, je trouve dans les comiques de situation, ça marche. Dans Les Rois du Patin, quand Will Ferrell fait, il y a une compétition olympique, on ne fait pas ce qui se passe dans l'organisation de la ville. On se concentre sur ce duo de patineurs improbable.
Oui, exactement. Sauf que lui, il est encore dans un entre-deux.
Oui, mais...
Il ne va pas jusqu'au bout de la compétition
non,
de patin, quoi.
Mais ce qui va... Par contre, ce que je trouve rejoint les deux, c'est quand même la performance du comédien. Le travail de Benjamin Voisin...
Qui interprète Paul, parlez-en.
Césarisé pour Illusion perdue, qui là était seul en scène au théâtre dans un spectacle absolument incroyable. Je trouve qu'il... C'est pas quelqu'un qu'on voit dans des comédies habituellement, et il s'empare de ce personnage, pour le coup, extrêmement physiquement. Lui, alors, il sait m'émouvoir et me montrer des choses sans dialogue qui fonctionnent. Et peut-être que, justement, si on lui avait laissé encore un peu plus la place et si on avait enlevé certains dialogues parce qu'il montre des choses, parce que sa maladresse ou sa volonté de quand même de montrer un peu sa force, mais en étant bientôt incapable, si ça avait été, si on voyait ce qu'il y avait, je pense que ça aurait été encore amélioré. Il n'empêche que ne serait-ce que pour ce que fait Benjamin Voisin, ce film vaut la découverte.
Oui, même de manière physique, par exemple, Charlotte, sur la manière dont se tient Paul, le personnage de Paul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui dit détends-toi, tourne le cou. Il fait non, ça je peux pas. Je peux pas tourner le cou. Là, il y a quelque chose de l'idiotie qu'on perçoit quand même à travers cette posture.
Il a une raideur dans la nuque. C'est à peu près tout quand même.
Oh, écoutez,
comme idée physique. Bah, non, mais c'est pas non plus
je
un travail.
Je sais pas quoi vous trouver pour vous faire rire.
Bon, en tout cas, moi, je recommande de revoir Sportif par amour de Buster Keaton.
Les Rois du Patin.
De 1927. Il se trouve partout sur petit écran. Voilà.
Et sur l'interprétation, par exemple, on a beaucoup parlé aussi d'Emmanuelle Berco dans le rôle de la coach. Sonia, une coach castratrice qui porte des tresses africaines. Donc rien ne va chez elle. Elle est gênante. Il y a Laura Felpin qui est quand même l'intendante du village olympique qui est assez drôle. Là, on retrouve Laura Felpin. On veut voir du Laura Felpin. On en a. Non, ça vous a pas convaincu.
Ce qui me convainc, c'est d'avancer sur le terrain de la gênance. Donc j'attends de la comédie là, comme il y en a des très très grands, comme Curb Your Enthusiasm de Larry David qui vient de s'achever la série. Mais peut-être que c'est dans la série qu'il aurait fallu travailler pour moi, pour qu'il y ait des effets de répétition, de retour, une familiarisation avec les types, quand même les stéréotypes posés. Là, tout ça arrive, repart, et il me semble qu'il y a quelque chose de superficiel malgré tout, comme ce travail sur un personnage où on lui met des nattes, elle a un chewing-gum, et en gros, avec ces deux éléments, comme au théâtre, comme un exercice de théâtre, elle doit composer un personnage.
Thierry Chaise, dernier mot quand même sur les interprétations et celle d'Emmanuelle Berco.
Emmanuelle Berco qui confirme qu'en comédie, elle est quand même très très forte. Moi, je pense que c'est évidemment que comme tout costume, comme tout travail autour de la coiffure, il se passe quelque chose, mais il y a une dinguerie, il y a surtout une alchimie entre deux qui m'épate. Je pense que peu de comédiennes ou comédiens français sont capables de jouer cette dinguerie-là, surtout dans un scénario, et dans une mise en scène, comme on dit, parfois un peu bancale. Je trouve qu'eux, au moins, ils apportent une solidité.
C'est quoi l'esprit Coubertin ?
Super.
Avec Benjamin Voisin, Emmanuel Berco, Laura Felpin, notamment l'esprit Coubertin de Jérémy Saint est en salle aujourd'hui.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent du film La vie selon Anne de Johanna Arnaud.
Tell me what you like.
I like when you tell me what to do.
I know that. What else?
I don't know. Can you just tell me what you want me to do?
I'm telling you what to do right now. And you're not doing it.
I was wondering if you could have me not even talk when I come over here.
I don't know. You really like to talk.
Anne a 30 ans et elle vit à New York. Anne a des parents tyranniques et des amants dominateurs. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ou entendu ce pitch des milliers de fois, l'histoire d'une comédie indépendante américaine sur les errances de jeunes adultes. C'est vrai, à ceci près que les amants dominateurs, c'est Anne qui les choisit, car Anne pratique le BDSM, manière de prolonger la soumission qu'elle vit au travail et en famille, manière surtout de radicaliser cette soumission. Et c'est à ça que se distingue ce premier long métrage de Johanna Arnaud. Chapitrée selon ses rencontres avec des hommes, elle assume le trash des plans séquences qui s'enchaînent, s'accumulent, un minimalisme qui n'édulcore rien. Qu'en avez-vous pensé, Charlotte Garçon ?
Oui, alors là, moi, j'ai beaucoup aimé...
Il y a de la gêne, là.
Oui, j'ai beaucoup aimé cet humour-là, qui est effectivement un humour basé sur une forme de neutralité, de neutralisation, plutôt, dans la mise en scène. On a l'impression que les scénettes font penser à une certaine BD, justement, new-yorkaise aussi, par leur côté elliptique. Et il me semble que la réalisatrice, qui est aussi la scénariste, qui est aussi l'actrice et qui est aussi la monteuse, fait surtout des choix rythmiques de ne couper... C'est-à-dire qu'elle se gêne elle-même en tant qu'autrice en coupant à des moments qui ne sont pas des chutes. Donc soit la séquence continue et c'est ça qui crée la gêne pour nous, spectateurs, ou pour elle, son personnage, dans des postures que nous trouverions peut-être dégradantes, ou à l'inverse, elle coupe à un moment. Donc c'est l'humour né de ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que même la réalisatrice se gêne elle-même en tant que cinéaste dans la mise en scène qu'elle propose. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Vous disiez aussi que il y a un prolongement entre sa soumission, disons, dans le petit travail de bureau qu'elle a au grand capitalisme.
Le bullshit job.
Voilà, le bullshit job. En réalité, il y a justement, me semble-t-il, un va-et-vient, une oscillation entre, un rapprochement entre cette soumission au travail et la soumission qu'elle recherche dans ses liaisons, on n'ose pas dire amoureuses, et en tout cas sexuelles, et au contraire, une mise en contraste de ça. Et tout le film est dans cette oscillation. C'est-à-dire que il me semble que ce qu'on comprend, c'est que choisir une soumission complètement codifiée contractualisée d'une certaine façon avec les hommes, c'est au contraire retrouver un pouvoir que dans la société et au travail, l'air de rien, on n'a pas du tout.
C'est presque renversé en fait, choisir la soumission plutôt que la subir.
Il me semble, c'est-à-dire que moi c'est ça que je comprends, ne connaissant pas très bien ce monde du BDSM, j'ai l'impression que j'ai appris quelque chose sur ça, c'est-à-dire que il y a une façon de s'approprier, disons, sa soumission qui la symbolise, qui la rend apprivoisable, alors que au travail on s'entend dire bah tu as changé de poste par exemple, tu as un nouveau titre, tu n'as pas de nouvelle fonction, mais voilà, maintenant on va t'appeler comme ça parce qu'on a fusionné avec une autre entreprise. Et en fait on a aucun moyen, on a aucune prise, donc c'est un film qui est aussi politique de ce point de vue là me semble-t-il.
Thierry Chaise, qu'en avez-vous pensé?
Alors j'ai exactement aimé ça, mais j'ai aimé ça une fois, la première scène où j'ai absolument tout compris. Et à partir de là, j'ai vu le programme se développer. Non, mais se développer pendant. On pourrait encore y être. J'ai vu le film il y a un an, mais je me dis, tiens, on pourrait continuer à tourner et enchaîner les scènes.
Mais on y est encore.
Quand on parlait de Sénette au moment de l'Esprit Coubertin, alors là, on est à 800% dans un enchaînement de choses. Bah, ça m'a fait un truc très étrange. J'ai eu l'impression d'avoir un retour en arrière 15 ans avant, un mouvement qui s'appelle le mouvement Mumblecore, qui a notamment permis de révéler Greta Gerwig avec cette idée.
Donc, Frances A, notamment, dans le film de Noah.
Oui, et là, c'était presque le Marvel du Mumblecore. C'est vraiment pas de moyens, couleur blafarde. On essaye comme ça justement des ruptures de ton. Donc, il y a ça. Il y a, évidemment, Lena Dunham, parce qu'on parle beaucoup à la série Girl. Et puis, tout ça avec Secretary, qui était quelque chose qui parlait aussi de la relation.
Bref, tout. C'est quoi ce film, Secretary?
C'était un film où une secrétaire avait une relation BDSM avec son patron. Donc, moi, le propos du film, je le trouve inattaquable, intéressant. Et, pour le coup, je ne l'ai pas beaucoup vu. Sauf qu'une fois qu'on l'a installé, moi, j'ai le sentiment que, eh bien, je me dis, ah d'accord, cette première scène dit ça, on va voir comment ça va évoluer. Alors sans doute qu'il y a une volonté de tourner un pipeau en rond, de jouer sur un comique, pour le coup, de répétition. Mais je suis resté en fait assez interdit. Quand il était présenté à la Caserne des cinéastes, la première projection, vous avez dit, tes gens sont sortis de la salle, outrés, choqués. Je me dis, soit on m'a fait une blague, soit vraiment les gens sont très étonnants. Quoi. Je suis resté, en fait, moi j'ai l'impression de
très puritain
qui me... En fait, qui m'assène un cours et qui le fait remarquablement, mais où il n'y a surtout aucune sortie de piste. Et que justement, le fait de couper à un moment donné est exactement... Elle surplombe pour moi son propos. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, je regarde ça. Je ris par moments. Mais je me dis, ah, je trouve que... Je ne vois pas ce qu'elle a en quoi elle renouvelle et le genre mumblecore dont elle peut être...
Même réactualise, voilà. Un peu vieux.
Ouais. Et ni la thématique.
Ouais. Alors, Charlotte Garçon. Deux choses. D'abord, il y a tout à fait une évolution. D'abord, on la voit aussi chez ses parents, ce qui est encore autre chose. C'est-à-dire, quel rapport elle peut avoir de rébellion rentrée. En fait, c'est quelqu'un qui n'a qu'une agressivité passive, si vous voulez. Et donc, on la voit dans différentes sphères, notamment avec ses parents, qui à un moment chantent un chant syndicaliste en ancien activiste politique. Et dont on voit que elle se contente de lire. Elle est exaspérée par ça. Nous, en même temps, spectateur, on entend ce chant, on entend qu'il y a eu un passé où les gens étaient actifs et où ils étaient un couple et que leur union se traduisait aussi par un activisme politique. Alors que elle, non seulement elle est seule, non seulement elle va sur Tinder et pour du BDSM, mais en plus elle est complètement coupée de cette politique, de cette possibilité d'action politique, de cette possibilité d'y croire. Donc moi je trouve au contraire qu'il se passe quelque chose. Enfin moi je trouve ça très très angoissant et c'est pas du tout juste montrer la petite vie, la chronique de la vie d'un individu. En cela, je pense que le titre français est quand même trompeur. Et la deuxième chose...
La vie selon Anne, oui. Peut-être le titre original, je le dis. Oui. J'ai un très mauvais anglais, allez, vous me pardonnez. Tu veux le dire, Nicolas?
Allez-y, tenez-moi, je vais le dire, c'est écrit.
On est politesse.
Oui, non, mais on est comme ça, vous savez, c'est le 8 mai. The feeling that the time for doing something has passed.
Voilà, on sent toute la nostalgie de la chose. Et c'est exactement ça qui définit, par exemple, le rapport aux parents qui, eux, ont été 68ards, on dirait, en France. Donc, qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où tout glisse, où tout le monde est indifférent, où tout le monde est sur son téléphone, etc. Elle n'en fait pas du tout des discours. Elle montre quelqu'un qui, stoïquement, vit comme ça. Bon, l'autre chose, c'est qu'il lui arrive quelque chose, puisqu'elle noue une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'a pas du tout ses pratiques BDSM et qui, lui, se comporte en jeu. jeune romantique et on voit ce qui arrive. Bon, on va pas dévoiler, mais et la troisième chose, c'est que le rapprochement avec le mumblecore, le mouvement mumblecore est juste. Je suis d'accord qu'il y a une espèce d'épopée américaine, mais murmurée, enfin un art de la miniature et de dire je suis là, je pose ça là, mais voilà, je vais pas vous faire ni des grands discours ni une grande fresque sur l'Amérique. Sauf que la différence, c'est qu'on voit bien que Greta Gerwig, qui quand même aujourd'hui signe Barbie, hein, Anne, comment elle s'appelle,
Joanna
Arnaud, ouais. On est quand même très très loin. Hein. C'est vraiment une économie réellement très très parcimonieuse et qui vit de très peu. Donc faut pas quand même confondre. Et d'autre part, Greta Gerwig, même quand elle faisait soi-disant du mumblecore, elle se montrait inventant une danse, essayant de danser, etc. Donc j'avais moi toujours l'impression que c'était quand même des postures pour dire j'ai un corps burlesque, maladroit, trop grand, mais en fait ça va être résolu et je vais être formidable et vous allez voir ma grâce dans votre film. Là, pas du tout. C'est pas ce programme-là, c'est pas un programme narcissique d'autrice.
Mais ce qui était déjà le cas avec Lena Dunham, hein, oui, qui se montrait sans phare il y a 10 ans.
Voilà, c'est pour ça. On l'a déjà vu. Puis Greta Gerwig.
Oui, mais là, pas du tout.
S'il y a 15 ans, quelqu'un avait pu penser que Greta Gerwig réalisera un jour Barbie, c'est aussi, aussi peu probable qu'aujourd'hui, cette réalisatrice le réalise un jour.
Je ne sais pas. Moi, je n'aimais pas trop ces films. Et je percevais une forme de facticité dans ce courant new-yorkais.
Et vous aviez une bonne intuition.
Il était chic de se montrer modeste, y compris par rapport à son corps. Là, il me semble qu'on a atteint un degré beaucoup plus, alors peut-être beaucoup plus nihiliste, mais en tout cas, pour moi, d'une grande sincérité.
Qui radicalise ça et dans la sincérité, dans le nihilisme, c'est ça, Thierry ?
Le souci que c'est que quand on regarde les films de Sundance depuis des années, des films comme ça, pas parlant de BDSM, mais avec cette imagerie-là et ce ton-là, il y en a à l'appel. Ils ne sortent plus en France parce qu'ils sont trop chers, on les voit de temps en temps sur certaines plateformes, et moi j'y vois quelque chose, au contraire, mais vraiment qui est très dans un air du temps, avec cette petite chose en plus qui est en effet. Comment par le BDSM on raconte quelque chose, mais ce nihilisme-là existe tout le temps partout. Et quand on dit on n'en peut plus des films Sundance, c'est que d'un seul coup celui-là, on se dit c'est incroyablement original. C'est là où j'ai du mal. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus surprenant.
Voilà. Charlotte Garçon, un dernier mot.
Oui, non, je pense que c'est dans le détail de chaque scène, voire de chaque réplique, voire de chaque positionnement de la caméra, qu'on voit que c'est pas du tout factice et qu'il n'y a pas du tout pour moi de programme, et surtout pas de programme Sundance.
Là, il y a un art de la scénette, à la différence du premier.
Du rythme.
La vie selon Anne de Joanna Arnaud. Voilà, c'est en salle aujourd'hui. C'est avec Joanna Arnaud, celle qui réalise, écrit, interprète, a monté le film. Merci à tous les deux, Thierry Chaise. On vous lit dans le magazine Première. Merci à vous, Charlotte Garçon. On vous lit dans les cahiers du cinéma. Et j'en profite pour saluer cette magnifique couverture consacrée à Jacques Demy. Très belle couverture. Très belle une, pardon. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.